RCF. Il est 7h30, le journal de la rédaction de RCF est présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
L'armée israélienne promet une riposte contre l'Iran.
Oui, alors que la réponse d'Israël à l'attaque de l'Iran sur son sol se fait toujours attendre, les États-Unis affichent de leur côté un soutien plus mitigé. Emmanuel Macron dans le Vercors. Aujourd'hui, le président y lancera les commémorations nationales dans le cadre des 80 ans de la libération. Et puis la championne olympique Laure Manaudou sera la première relayeuse française de la flamme olympique au départ d'Olympie en Grèce. La flamme parcourra ensuite un long voyage. On en parlera dans un instant.
L'armée israélienne promet une riposte à l'attaque massive lancée par l'Iran malgré les appels de nombreux pays, États-Unis en tête, à éviter un embrasement au Moyen-Orient.
Oui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi appelé la communauté internationale à rester unie face à l'agression iranienne qui menace la paix mondiale, je le cite. Alors que la réponse d'Israël à l'attaque de l'Iran se fait attendre, les États-Unis affichent donc un soutien plus mitigé à l'État hébreu. Le secrétaire d'État américain a déclaré hier ne pas vouloir d'escalade avec l'Iran. Un message partagé par la communauté internationale et la coalition des pays arabes au Moyen-Orient. Selon Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris, l'offensive iranienne ne peut pas rester sans réponse de la part d'Israël, mais le chercheur ne croit pas à l'hypothèse d'une riposte de grande ampleur.
Sans les États-Unis, Israël n'a pas de soutien politique et militaire suffisant pour aller lancer une opération gigantesque en Iran. Alors, ils peuvent le faire, hein, mais s'ils veulent le faire de manière décisive, déterminante, avec des ravitaillements en vol et toute une série d'aspects techniques dont je vous fais grâce, il faut le soutien américain, ils ne l'ont pas. Après, sur le plan politique, ce n'est pas Washington qui essaye de retenir le gouvernement israélien, ce sont aussi ces États arabes qui sont beaucoup plus proches d'Israël que de l'Iran. Car enfin, au Moyen-Orient, le vrai clivage d'aujourd'hui, il prévaut entre l'Iran et ses proxys chiites, hein, ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance, d'un côté, et de l'autre, la majorité des États arabes, qui sont bien évidemment sunnites, et qui craignent l'Iran, qui craignent pas Israël, qui craignent l'Iran. Et je pense que ces deux raisons, Washington d'une part, d'autre part les États arabes modérés, créent une situation de pression sur le gouvernement israélien.
La Chambre des représentants des États-Unis votera cette semaine sur des projets séparés d'aide à l'Ukraine et Israël après des mois de différends politiques entre l'administration de Joe Biden. Une enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev réclamée par le président est toujours bloquée au Congrès depuis des mois, tout comme une autre enveloppe pour Israël. Donald Trump, lui, est devenu hier le premier ex-président américain à comparaître au pénal dans un procès à New York qui expose le candidat républicain au risque d'une condamnation à quelques mois de l'élection présidentielle. Au terme d'une première journée d'audience, il a affirmé avoir un vrai problème, je cite, avec le juge Juan Merchant, qui préside les débats au tribunal de Manhattan, assurant qu'il n'aurait pas droit à un procès équitable. En France, le gouvernement lance ce matin l'opération Mayotte Place Nette pour lutter contre l'immigration illégale. Un an après le début de la première opération Wambushu, l'objectif affiché par l'exécutif reste le même, lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et le logement insalubre. Cette nouvelle opération comportera notamment le déploiement de moyens en mer, comme un bateau de la Marine nationale dans le canal du Mozambique, par exemple, pour couper la route des Grands Lacs où passent de nombreux migrants.
Emmanuel Macron, lui, sera à Vassieux en Vercors, dans la Drôme, cet après-midi.
Le président y lancera les commémorations nationales dans le cadre des 80 ans de la libération. Une venue attendue dans ce village martyr. Aucun président ne s'y était rendu depuis le général de Gaulle, c'était en 1963. Et ce n'était pas pour des commémorations officielles. Caroline Pratt, à 1000 mètres d'altitude, c'est tout un village qui s'est préparé.
La peinture est encore fraîche sur les grilles de la nécropole. C'est là-bas que se tiendra la première partie de la cérémonie devant les 187 tombes de maquisards et d'habitants tués suite à l'offensive allemande en 1944. Tout un symbole pour Laure Bonnet, la directrice de l'Office national des anciens combattants en Drôme.
On a un massacre de civils très important, doublé également de massacres, de fusillades, de résistants. On a sur le plateau des maquis qui sont très nombreux, que ce soit du côté drômois, du côté isérois.
En venant à Vassieux, le chef de l'État rendra hommage aux résistants de toute la France, mais en choisissant le 16 avril, début de plusieurs jours de terreur par la milice française, il rappellera aussi une autre page de l'histoire, un passé dans sa globalité qu'il faut toujours rappeler, selon le maire Thomas Ottenheimer.
Quand quand on voit parfois la répétition de l'antisémitisme, des actes racistes, l'islamophobie, etc., il faut quand même continuer avec un message qui est très clair, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à vivre ensemble, lorsqu'on n'habite pas à cohabiter les uns avec les autres, eh bien le résultat, on le connaît.
Ici à Vassieux, certains habitants auraient préféré le 21 juillet pour accueillir le chef de l'État, date de l'assaut allemand. Oui, mais cela faisait trop tard pour lancer les commémorations nationales et surtout cela tombe à quelques jours cet été du début des Jeux Olympiques.
Reportage Caroline Pratt.
J-100 avant le début des JO.
La championne olympique Laure Manaudou sera la première relayeuse française de la flamme olympique, berceau des JO. La grande compétition se rapproche et se concrétise. Une étape importante va être franchie aujourd'hui, le début du parcours de la flamme. Elle va donc être allumée à 10h30 sur le site historique d'Olympie en Grèce. Ce sera ensuite un long voyage jusqu'à sa destination finale, la vasque olympique qui sera allumée lors de la cérémonie d'ouverture. Alors Suzanne Marion, quel va être le parcours de cette flamme ?
Comme le veut la tradition, la flamme olympique va être allumée grâce à la lumière du soleil. C'est un miroir parabolique qui est utilisé. Il permet de recueillir les rayons qui se transforment ainsi en feu. Le premier porteur de la flamme olympique est un athlète grec et on a appris hier qu'il passera le relais à la nageuse Laure Manaudou. Tout cela se déroulera en Grèce parce qu'avant de rejoindre la France, la flamme olympique va traverser le pays pendant 11 jours. Ce n'est que le 27 mai que la flamme embarquera sur le Bélème pour une traversée de la Méditerranée jusqu'à Marseille, où elle est attendue le 8 mai. Grâce à 10 000 porteurs, elle traversera plus de 400 villes et des lieux du patrimoine naturel et historique comme la grotte de Lascaux, le Mont Saint-Michel ou les plages du débarquement. Entre les 7 et 18 juin, elle se rendra en bateau dans les territoires ultramarins. Son arrivée à Paris est prévue pour le 14 juillet.
Il est 7h36, un point sur l'actualité religieuse. Une nouvelle église tourne la page à Louis Ribes, l'ancien prêtre pédocriminel.
À la demande d'associations de victimes, l'église Notre-Dame de Charly dans le Rhône va déposer 11 vitraux signés du père Ribes aujourd'hui. Une opération qui coûte 80 000 euros. Il s'agit de la 5e église qui décroche les œuvres du père Ribes en 2 ans. Début 2022, il a été reconnu de manière posthume coupable de viol et d'agression sexuelle sur mineurs dans les diocèses de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Et ces vitraux en portent le témoignage, comme ceux décrochés hier, aujourd'hui, comme ceux décrochés ce mardi, nous explique le maire de Charly, Olivia Arrojeau.
Avec les échanges que nous avons eus avec les victimes, on a un certain nombre de scènes qui laissent à penser fortement que malheureusement l'inspiration de ces scènes, qui pouvaient être des moments de recueillement d'enfants avec des adultes, eh bien malheureusement étaient des scènes de pédocriminalité. Malheureusement, c'était des viols collectifs parfois. C'est la source même d'inspiration de Louis Ribes. Les choses sont maintenant reconnues y compris par le diocèse. Donc on ne peut plus les laisser dans notre belle église et il va falloir agir en conséquence. La difficulté à Charly, c'est que maintenant que nous avons des témoignages, on ne peut plus les regarder comme avant et on ne peut pas accepter qu'il y ait des actes pédocriminels qui soient à la source même du vitrail que nous avons en exposition.
Et les vitraux vont bien être décrochés cet après-midi à Charly en présence des survivantes et survivants du pédocriminel.
On va parler vacances. À présent, 69% des Français influencés par Instagram pour choisir leur destination de vacances. C'est un sondage de Brix.co.
Oui, et selon un autre sondage de janvier 2020, réalisé cette fois-ci par Opinionway, 54% des Français estiment qu'on choisit son futur lieu de vacances en fonction du potentiel photo des images postées sur les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple. Quelle est la place de ces réseaux sociaux dans l'industrie du voyage ? Cédric O'Neill est le fondateur de Brix.co, une société de gestion immobilière.
Soit ils voient une photo et ils se disent que ça va déterminer leurs vacances, soit ils vont rechercher un endroit avec un potentiel photo pour également partager eux-mêmes des photos sur le réseau social. Et donc c'est pas tant pour choisir la destination, donc on se dit pas je vais partir au Pays Basque, c'est plutôt il y a de nouvelles entreprises start-up qui se créent autour de concepts de voyages un peu atypiques, insolites. Et c'est plus une expérience qu'on va chercher, plus qu'un lieu.
Et tout cela m'a donné envie d'écouter une musique de vacances, Pierre-Hugues.
Moi j'en reviens, alors allons-y, écoutons. Ah, on va pas écouter, on écoute David et Jonathan sur RCF.
Dis donc, est-ce que tu viens pour les vacances ?
Ah, c'est inattendu.
C'était la petite surprise du chef.
Ah oui.
C'est David et Jonathan.
Et ben vous, en tout cas, vous étiez au rendez-vous ce matin pour ce journal de 7h30 de la rédaction de RCF. Il est 7h40, on retrouve...